France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1989, le mardi du cinéma qu'elle consacrait à Rainer Werner Fassbinder, Pascal Werner l'avait titré 1945-1982, Fassbinder, théâtre de cruauté. Comment comprendre ce titre qui faisait écho au théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud? De différentes manières, sans doute, vers lesquelles conduisaient les témoignages sur la personnalité de Fassbinder, sur sa façon de travailler et les analyses de son cinéma que proposait cette émission. On y entendait la comédienne qui lui devait ses plus grands rôles, Anna Chigoula, la mère du cinéaste, Liselotte Eder, actrice dans plusieurs de ses films, Harry Baer, comédien et assistant de Fassbinder, ainsi que Jacques Grant et Yann Lardot, qui avaient l'un et l'autre consacré un livre au cinéaste. Interrogés par Pascal Werner, l'un et l'autre dégageaient les thèmes récurrents de ses films et éclairaient les dimensions d'une part tragique et d'autre part cruelle du cinéma de Fassbinder. Un mardi du cinéma qui, en plongeant au cœur de ses films, cherchait à saisir les reflets du miroir que Fassbinder avait tendu à travers eux à l'Allemagne démocratique d'après le nazisme, à la RFA du miracle économique de l'après-guerre. Ce miroir, Fassbinder l'aura tendu à son pays au risque de toutes les incompréhensions et des pires suspicions. En particulier celle d'antisémitisme dans certains de ses films et plus encore dans sa pièce de théâtre de 1976, L'ordure, la ville et la mort, adaptée ensuite au cinéma par Daniel Schmitt dans L'ombre des anges. Une accusation d'antisémitisme dont Yann Lardot expliquait pourquoi, résultant d'un contresens, elle était sans fondement à propos de Fassbinder. Mardi du cinéma, 1945-1982, Fassbinder, théâtre de cruauté. Première diffusion, le 14 mars 1989, sur France Culture.
Rainer Werner Fassbinder, théâtre de cruauté. Une émission de Pascal Werner, réalisée par Jacques Taroni.
Wie immer ist Fassbinders Umgang mit den Stars von Weltrang, die er engagiert hat, zurückhaltend und scheu, sein Arbeitspensum gewaltig, seine Präzision im Studio ohne Beispiel. Es ist sein 41. Film in 13 Jahren. Querelle nach dem Roman von Jean Genet, ein Stück radikaler homosexueller Fantasie. Die Angst vor dem Tode und vor den dunklen Gedanken der Seele, die Sehnsucht nach Leben als Sehnsucht nach Liebe, die Macht des Menschen über den Menschen, all diese für Fassbinder einzig wichtigen Themen finden sich in diesem Stoff.
Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword.
Avec Harry Baer, Anna Chigoula, Jacques Grant, Yann Lardot, Liselotte Eder, dite Lilo Pempike.
Kein Mensch zu erkennen.
Anfang, wenn Strafspiel, der Anfang wird schwer sein.
Et la voix de Rainer Werner Fassbinder.
Natürlich ist der, der liebt oder mehr an dieser Liebe hängt oder an einer Beziehung hängt, der Unterlegene. Das hat damit zu tun, dass der, der weniger liebt, mehr Macht hat, klar. Damit fertig zu werden.
C'est une machine de vapeur.
Oui.
Et si tu ne donnes pas de l'eau,
oui,
ça ne marche plus. Et...
De toute façon, il y a une chose évidente, c'est que tous les autres sont plus lents.
Anna Chigula.
Alors là, quand on a connu les tournages de Fassbinder, très souvent, on reste comme ça en train d'entendre que ça bouge parce que lui, il était quelqu'un qui admettait bien que les choses prennent leur temps quand c'était nécessaire, mais sinon, comme il avait un rythme très accéléré de vivre, il avait un rythme très accéléré de travailler, il était toujours très, très préparé aussi. Il y avait une inspiration autour de lui, ce qu'on ne peut pas dire de tous les metteurs en scène. Un magnétisme très fort, à ce point que presque tous les personnages qui étaient autour de lui changeaient au moment où il entrait dans la chambre. Ça se sentait, il y avait un champ magnétique. Quelquefois, c'était une excitation, quelquefois, c'était aussi une angoisse, une peur. Il était aussi très ouvert, quelquefois, aux coïncidences, aux choses de moment. On ne pouvait pas tourner ça. C'était pas quelqu'un qui était perfectionniste d'une façon maniaque. Comme il avait toujours des gens autour de lui qui étaient habitués à lui, il a eu la sagesse depuis toujours aussi de laisser beaucoup d'espace pour la créativité des gens autour de lui. C'était un homme qui touchait à tout et faisait de tout. Donc, on ne peut pas le fixer comme ça sur une ligne.
Avec Chigula, c'était différent?
Oui, c'était une chose complètement différente, comme avec tous les autres, au début, mais avec elle jusqu'à la fin, parce qu'elle a dit pour elle seulement des petites phrases. Hanna, mach's doch ein bisschen anders irgendwie. Ne? Fais ça un peu. Différente quelquefois.
Oui.
Aussi dans une dans ce son comme j'ai parlé, hein, jamais un Hanna macht es mal anders oder so. Ne? Il a toujours parlé avec elle très soft, très
doucement.
Et pour ça, elle peut dire ce qu'elle a dit hier. Bien sûr, ils ont eu une relation. Très, très. Elle a eu, bien sûr, une situation privilégiée dans l'équipe, comparée avec les autres, quelquefois.
Oui.
Quand il y a eu des gens qui sont forts, ils peuvent résister, émanciper de lui, et ça l'a accepté. Et quand non, il a.
Écrasé?
Essayer d'écraser, hein, pour voir qu'est-ce que c'est à la fin. Une poubelle ou un homme, hein? C'est pour ça.
La complicité entre moi et Fassbinder s'est toujours passée sans mots. C'est-à-dire déjà à l'école, je ne me rappelle pas qu'on s'est parlé beaucoup. Sûrement jamais juste moi et lui, toujours en groupe. Et le seul point qu'on avait déjà en commun, c'est que tous les deux, on a quitté l'école avant de la finir. Lui, il y avait toujours un rapport qui était indirect entre nous. C'est étrange, mais c'est comme ça. Un apport, ça aurait peut-être être un jour, ça aurait peut-être être une histoire d'amour, grande histoire d'amour, mais c'était indirect, donc il fallait que ça passe par des films. En contact direct, on était assez incapables l'un avec l'autre. Déjà à l'école, j'ai réalisé que c'était quelqu'un de très révolutionnaire, rebelle. Déjà à l'école d'art dramatique, il parlait toujours que plus tard, il voulait faire des films. Et là, je me suis rendu compte, parce que j'ai joué aussi avec lui, c'était une combinaison de mise en scène et jeu ensemble, je me suis rendu compte tout de suite qu'il y a quelque chose là, que voilà, c'est mon metteur en scène. Mais oui. C'est jamais quelque chose qui on n'a jamais eu des discussions ni de longues conversations sur ce qu'on faisait. On était très attentifs l'un à l'autre, à des gestes, à ce qu'il disait aux autres. Mais en direct, il se passait peu de choses.
And this is a tree.
This is a tree.
And that which you hear, beep, 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 are birds.
And that which you hear, beep, 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 are birds.
I am black, you are white.
I am black, you are white.
No, the other way round.
No, the other way round. You're black and I'm white.
Yeah, yeah. These are your eyes.
These are my eyes.
And these are your lips.
And these are my lips.
Il y avait quelque chose de génial que ça ne se trouve pas d'habitude dans le milieu. Il y a des bons faiseurs, mais il y avait là quelque chose qui n'était pas facile à avaler.
La fin des années 60, c'est un mélange de tous, parce que c'est pas on voulait le communisme, on n'a pas savait qu'est-ce que c'est, on était jeunes, et, bon, c'était une mixture de tous. Quand il est jeune, il était trois fois par jour au cinéma pour voir les films. Il a préféré dans ce temps, bien sûr, des films américains, parce qu'il n'y a eu que des films américains, parce que nous sommes une république Coca-Cola. Et il y a eu la nouvelle vague en France. Et bon, quand tu va trois fois par jour au cinéma, tu comprends aussi comment on fait les films. C'était une révolte contre le cinéma après la guerre, qui était pas un bien cinéma parce qu'avec l'interruption des nazis des 12 années, on a pas une base pour un bon cinéma, parce que tous les vieux techniciens, tous les vieux maîtres en scène ont participé à la nouvelle démocratie en Allemagne, et les mecs les meilleurs sont partis d'avant Hitler en Amérique, comme Lubitsch et tous les autres. Alors ça manquait quelque chose en Allemagne. Et pour ça, c'était au début une révolte. Et à la fin, peut-être on peut dire que Rainer a fait une description de notre pays. Ça commence, laisse dire, avec Alexanderplatz, c'est directement avec l'histoire, avec le mariage de Maria Braun et Lili Marlène, et Veronika Voss et Lola, oui, bien sûr. Oui. Mmh. Et aussi, bien sûr, il y a des films où il a essayé de dire quelque chose direct, mais c'était pas son tête qu'il a dit ça, c'était son ventre. Hein. La force qui est là-dedans, c'est une voûte, sa colère contre les conditions allemandes, so, par exemple pour Deutschland im Herbst, also
l'Allemagne en automne,
ou la troisième génération, ce sont des... Il a exprimé directement, il a réagi, bien sûr. Il a réagi. Elle était la seule, dans mon opinion.
Dans le Marchand des Quatre Saisons, il avait toujours pratiquement la même équipe, mais en même temps, il a, cette année-là, après avoir réglé avec d'autres tournages les problèmes personnels qu'il avait avec son équipe, avec des films un peu qui mettaient à jour un petit peu l'ambiance un peu folle dans laquelle ils travaillaient tous, à l'époque où ils étaient encore pauvres et passionnés, et un peu hystériques, comme ça. Après Whitey, après Prenez garde à la Sainte Putain, tout ça. Il a tourné ce film qui pour lui était une préoccupation beaucoup plus publique. Il a voulu raconter l'histoire d'un homme moyen, et je crois que c'est ça la vraie rupture, c'est de décider de raconter une histoire qui touche les fantasmes, les malheurs, les déchirures de la majorité des êtres humains moyens. Ce qui est un comportement dont il ne se départira jamais, y compris lorsque, à la fin de sa carrière, il fera des films très grand public, très coûteux et très prestigieux, qui raconteront des histoires de personnages assez extraordinaires. Il s'attachera toujours à montrer ce qui, dans ces personnages, est le lot commun de, pour parler un peu bêtement, de l'humanité.
Il y a une vie qui a été assez mouvementée. Il y a
Yann
une
Lardot.
Révolte contre l'Allemagne qui justifie aussi ce mythe. Il y a une légende sur l'homosexualité et le sadomasochisme. Je crois beaucoup de choses qui sont plus ou moins vérifiables, mais je crois surtout que la légende ou le mythe Fassbinder est un peu de la même nature que la légende ou le mythe Pasolini. Si Fassbinder a eu une si grande importance dans le cinéma allemand et dans le cinéma mondial, c'est parce qu'il est situé au même plan qu'un cinéaste comme Oshima ou qu'un cinéaste comme Pasolini. C'est-à-dire à la fois trois cinéastes qui ont interrogé des pays qui s'étaient lancés dans la guerre et qui avaient vécu l'expérience du fascisme, qui ont remué cette histoire-là, qui ont interrogé son héritage et qui en même temps ont visé à une représentation de la société dans laquelle il vivait. Et trois cinéastes qui, pour remonter cette histoire du fascisme que l'histoire avait tendance à étouffer, sont repartis au niveau le plus profond et le plus difficile, qui est celui des pulsions.
Ja, also Rainer hat mich überfallen mit
Liselotte Eder, Dietlilo Pampait.
Und zwar war das bei dem zweiten Film, glaube ich, den dritten Götter der Pest.
Rainer m'est presque tombé dessus en me demandant de travailler comme comédienne. Et c'était pour la première fois l'occasion de son film Les Dieux de la Peste.
Bart kam und bat, dass er in unsere Wohnung drehen kann. Und dann sagte er, kam er also mit der ganzen Crew an und dann sagte er zu mir, ach, setz dich doch mal auf das Sofa.
Il m'a demandé de pouvoir tourner dans mon appartement. Il est arrivé avec toute sa clique, toute sa bande. Et il m'a simplement dit, eh ben toi, tu vas t'asseoir sur le divan.
Ja, und dann sagte er, sag mal zum Harry, brauchst du Geld, mein Sohn?
Et il m'a demandé, tu vas dire à Harry, mon fils, as-tu besoin d'argent?
Ja, und dann habe ich gefragt, brauchst du Geld, mein Sohn? Und dann habe ich gedacht, er leuchtet das so ein für den Schauspieler, der dann kommt, ne?
Et alors moi, j'y suis allée de ma réplique, j'ai répondu « Est-ce que tu as besoin d'argent, mon fils ?» Et j'ai pensé qu'il faisait l'éclairage simplement pour faire une prise de vue sur le comédien.
Ja, und plötzlich sagt er « Gut, wir drehen !» Und dann surrte die Kamera und ich sag « Rainer, was machst du hier mit mir ?»
Et tout à coup, il a dit « Ça y est, on tourne !» Et j'ai vu qu'il me prenait aussi dans son cadre. Et je lui dis « Mais Rainer, qu'est-ce que tu fais avec moi ?»
Ja, und dann hat er gesagt « Du musst mitmachen, eine, die so alt ist wie du, kann ich nicht bezahlen. »
Rainer m'a répondu, il faut que tu joues le jeu, une personne qui a ton âge, moi je ne peux pas la payer.
J'aime mieux fabriquer le miracle plutôt que l'espérer.
Vous êtes vraiment une femme pas comme les autres.
Il admirait beaucoup la Nouvelle Vague. Il admirait deux choses en Nouvelle Vague. La première, c'est d'avoir été capable de faire des productions sans argent. C'est ce qui s'est passé avec le nouveau cinéma allemand à la fin des années 60, et en tout cas avec Fassbinder. Sauf que lui, sur le plan financier, il a très bien géré son affaire, comme d'ailleurs la Nouvelle Vague assez vite, et que c'est devenu un homme d'affaires de première envergure. Mais ça, c'est une chose qu'il admirait dans la Nouvelle Vague, c'est d'être capable de travailler, même avant d'attendre que la manne vous tombe du ciel. Et ensuite, ce qu'il a aimé dans la Nouvelle Vague aussi, c'était l'attention portée au corps des acteurs. Sauf que lui ne s'est pas beaucoup amusé avec le corps des acteurs, Fassbinder. Il avait, c'était quand même un tragique comme ça. Il avait un regard à la fois tragique et attendri sur la misère des gens. Sur ce plan-là, il se détache de la Nouvelle Vague qui était assez cynique. Lui n'était pas cynique, Fassbinder. Il était violent ou amoureux, mais il n'était pas cynique. Les cinéastes de référence de Fassbinder sont des grands classiques. C'est Douglas Sirk, bien sûr. C'est Raoul Walsh. C'est les grands cinéastes américains, les grands auteurs de mélodrames américains. C'est ça, les cinéastes qu'il aimait vraiment. Godard, il l'admirait, mais il n'en faisait pas du tout un exemple cinématographique. Par contre, il aimait cette façon de rentrer dans les choses. Alors chez Godard, c'est de rentrer dans les formes, et chez Fassbinder, c'était plutôt de rentrer dans les corps et de rentrer dans les douleurs.
You are such a stupid woman, Lydia. You've lived here for 7 years already and you still can't speak the language properly. Still, I don't mind. Intelligence would take the bloom off your carnality. No, a woman like you should keep moist and plump. Lydia, who the hell wears red socks?
Oh, there are dalliance. He's always taking his socks off. You know what he's like.
Your cousin Styx, he should be in a zoo. Here.
Blood is thicker than water, Herman.
Handsome, isn't it?
Oh, you're so masterful.
How dare you come into this room partly clothed? Off with it! Have you no sense of indecency? Don't close the door.
Why not?
I want it open.
But Elsie...
Elsie's gone to bed. Leave it open.
Vous avez divorcé quand il avait 6 ans.
Ja, ich glaube, er hat so sich dann als Ersatz meinen Bruder genommen, über den er den Film Der Händler der vier Jahreszeiten dann gemacht hat.
Il a pris quasiment en remplacement mon frère sur lequel il a fait un film Le marchand des quatre saisons.
Oui, qui est le
Le portrait
un portrait de famille, car, oui.
De famille, un portrait.
Ja, es ist Dichtung und Wahrheit, nicht? Es ist kein reines Portrait.
Ah, das ist die Geschichte ihres Bruders.
Ja.
Oui, c'est l'histoire
du frère.
Et oui.
C'est l'histoire d'une déchéance, c'est l'histoire de quelqu'un qui est d'une famille bourgeoise et qui fait faillite, c'est ça.
Ja.
Oui.
Ja.
Oui.
Ja. Ja, ich finde das so im Nachhinein eigentlich fast unbegreiflich, weil diese Situation, die er in dem Film beschreibt, die hat er beobachtet so zwischen seinem 9. und 11. Lebensjahr.
Oui, elle trouve que c'est quand même très incroyable cette histoire, parce que cette histoire qu'il raconte dans ce film est une histoire qu'il a observée entre sa 9e et sa 11e année.
Er hat schon immer eine Offenheit gehabt und hat mehr gesehen als ich beispielsweise oder alle. Er hat diese Verlorenheit meines Bruders, also diese Unfähigkeit, mit dem Leben fertig zu werden, die hat er da als Kind schon gesehen.
Déjà comme enfant, il avait une capacité incroyable d'observation, plus que moi-même d'ailleurs. Il a observé la déchéance de mon frère d'une manière absolument incroyable pour son âge.
La scène la plus érotique de Fassbinder et de beaucoup d'autres films que j'ai pu voir se trouve dans Le Marchand des Quatre Saisons, et c'est pas du tout avec Anna Chigoula, ouais. C'est avec Irm Erman, qui d'ailleurs était la première femme de Fassbinder, la première femme avec qui d'ailleurs il a eu une relation physique. C'est une scène où elle est... Irm Erman n'est pas très belle, en tout cas pas dans ce film. Dans la vie, elle est éclatante, comme ça, mais dans ce film, elle est pas belle, elle est un peu ingrate, y compris dans le rôle qu'elle joue, pas seulement dans son physique, et elle est la femme d'un homme qui n'est pas beau, qui est une espèce de petit gros, comme ça, bon. Et à un moment, ils ont une relation de couple extrêmement dure, extrêmement conflictuelle, extrêmement mesquine, et tout à fait... déplaisante et désagréable pour le spectateur. Et à un moment donné, alors que la situation les concernant est pas du tout harmonieuse, ils sont dans le lit, ils sont au lit tous les deux bêtement, comme ça, et ils se rappellent comment ils se sont rencontrés. Et il y a un plan très beau avec une espèce de musique italienne un peu légère, comme ça, un petit peu kitsch, où on voit en très gros plan les grosses cuisses de l'homme et les cuisses plus fines et un peu blanchâtres de sa femme. Et c'est très beau. Et en même temps, c'est pris dans un contexte. À la fin de cette scène, il va y avoir quelque chose de très dur qui va se passer entre eux, où elle va faire une réflexion ironique à son égard, qui va tout casser. Et il faut bien voir chez Fassbinder, lorsqu'il y a de l'érotisme, c'est pas uniquement pour le plaisir que ça soit érotique, c'est parce que il se passe quelque chose de dur entre les personnages, de difficile. Mais l'érotisme en lui-même n'existe pas. Il est au fond, enfin, il est au cœur de la complexité et de la saleté des choses que vivent les personnages.
Vaste cause.
Buona, buona, buona notte, bambino mio. Alles was man will, das kann.
Sei nicht traurig.
Beruhige dich doch, Hans. Es kann so nicht weitergehen.
Sie sollen mitkommen mit mir.
L'humiliation est une chose qu'on retrouve dans pratiquement tous les films de Fassbinder. Parce que c'était quelque chose qui se vivait beaucoup autour de lui et qu'il voyait partout dans le monde. Il n'y a jamais autant de plaisir pour quelqu'un qui veut réussir en amour ou en affaires que de savoir qu'il a été capable d'humilier quelqu'un. Et il n'y a parfois jamais autant de plaisir chez quelqu'un qui aime quelqu'un que de se sentir humilié par lui. Et ça, Fassbinder en avait une conscience aiguë, bon, et tragique, et il l'a raconté dans tous ses films. Il l'a raconté de la façon la plus triviale. L'humiliation et son pendant, qui est le désir d'être reconnu par les autres, est une chose qui trame toute son œuvre. Mais le rapport à son autobiographie, là, me paraît pas vraiment intéressant.
Est-ce que vous ne croyez pas qu'à travers l'humiliation, il veut dépeindre ce qui est arrivé à l'Allemagne vaincue?
Fassbinder est un Allemand de l'après-guerre, et forcément que ça représente bien l'état d'esprit des Allemands d'après-guerre, qui sont des vaincus et des reconstructeurs.
Am Tag, als der Regen kam, lag
Regen weht, am Tag als der Regen kam, lang ersehnt, heiß erflieht.
En 40 films, on peut dire qu'il a présenté une histoire de plus en plus cruelle de l'Allemagne, même quand ses films deviennent classiques.
Je dirais pas cruel sur les derniers films, pas sur Lola, pas sur Maria Braun, pas sur Bernard Alexanderplatz. Un film comme Lola est quand même plutôt, à mes yeux, un film de réconciliation avec l'Allemagne. Alors que le tout premier film comme L'amour est plus froid que la mort, ou Les dieux de la peste, ou Le bouc, sont des films à la fois de révolte contre une société établie, mais aussi qui mettent en scène des gens qui n'ont pas d'avenir, et qui, dévie d'une marginalité qui est celle du milieu et de la pègre. Un film comme Le Bouc renvoie, lui, au racisme et à l'étroitesse de la société bavaroise. Ce sont des films qui n'ont pas non plus qui sont au présent pur, il n'y a pas du tout de dimension historique, alors que il me semble que plus Fassbinder a remonté dans l'histoire comme il l'a fait avec ses derniers films. D'une part, Maria Braun, Lola et Véronica Voss qui traitent des années Adenauer, mais d'autre part aussi Bernard Alexanderplatz, Desper et Bollwieser qui traite de la génération d'avant la guerre, ou Bernard Alexanderplatz qui traite de l'Allemagne pré-nazie. Il me semble que au fur et à mesure qu'il a remonté dans cette histoire-là, si la révolte pouvait toujours être là, elle était quand même adoucie du fait qu'il y avait ce recul sur toutes les épreuves de l'histoire vécue par les gens qui étaient les personnages de ces films-là.
Est-ce que vous croyez que dans Lola, il y a un avenir ? C'est quand même une vision assez sinistre de l'Allemagne. L'Allemagne est une prostituée, que la scène où cette prostituée évolue, c'est le bordel, et toute la ville tourne autour du bordel. C'est quand même une représentation de l'histoire à travers la prostitution, qui ne sont pas, je le pense, chez Fassbinder, des purs stéréotypes de mise en scène, mais qui sont presque à prendre à la lettre. Pour lui, tout le monde, la prostitution est la forme de l'histoire pure, non ?
Le personnage du promoteur dans Lola, c'est quand même quelqu'un qui a pu faire fortune cyniquement avec des trafics, qui peut être odieux dans ses affaires, mais qui ne l'est pas humainement. Or, c'est un personnage qui existe dans l'œuvre de Fassbinder, qui est permanent dans l'œuvre de Fassbinder, c'est un pilier de l'œuvre. Mais si vous comparez avec l'année des 13 lunes, si vous comparez avec l'ombre des anges, si vous comparez avec la troisième génération qui met en scène le même personnage, ce personnage est cynique, il est odieux, mais en plus, c'est quelqu'un qui détruit son entourage. Et c'est un autre visage du promoteur qui apparaît dans Lola. C'est peut-être aussi la première fois qu'il apparaît sous son visage humain, qu'il est un homme avant d'être un promoteur. Et comme metteur en scène, comme étant quelqu'un qui racontait des histoires de l'Allemagne, c'était, je pense, aussi une exigence par rapport à son propre travail d'artiste. C'est pas un idéologue, c'est un artiste. Et le propre d'un artiste, c'est effectivement de donner toute sa chance aussi à un personnage.
Also zunächst einmal ist unsere Beziehung nicht die zwischen wie zwischen Mutter und Sohn gewesen.
Notre relation n'a pas été une relation typique de mère et fils.
Das, oui. Ja, das kommt daher, weil als er ganz klein war, war meine Mutter mit im Haus.
Quand il était tout petit, ma propre mère habitait ja. avec nous dans la maison.
Und sie hat sich praktisch um ihn gekümmert.
Et en fait, c'est elle qui s'est occupée de lui.
Oui. Und ich hatte immer mehr so das Gefühl, weil ich nicht bei meiner Mutter aufgewachsen bin und da so ein Nachholbedürfnis auch hatte, ich hatte von mir aus auch das Gefühl, wir beide sind meiner Mutter Kinder.
Et comme moi, j'avais quand même plus ou moins manqué de mère, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment été éduquée par ma mère, j'ai tout à coup eu l'impression de pouvoir rattraper ça et j'avais l'impression que Rainer et moi, nous étions tous les deux chez une mère.
Vous étiez les deux enfants de votre propre mère.
Ja. Ja, und dann war er eigentlich immer so der kleine Bruder. Ich hatte so das Gefühl, nicht, dass er mein kleiner Bruder ist. Ne?
Il était votre propre frère, ja. oui. Comment votre fils, votre petit frère, est-il devenu cinéaste?
Ja, indem er ins Kino ging. Er ist ja in der Schule gescheitert, nicht? Also mit der Schule, die spuckt ja so Begabung, so spezielle Begabung spuckt die Schule aus und Kinder, die sich nicht so anpassen können.
Les enfants qui savent pas très bien s'adapter sont recrachés par l'école. Les enfants qui ont des talents particuliers ne sont pas intégrés dans les écoles.
Und also dann, das war so die Zeit, in der in Deutschland jedenfalls die jungen Leute plötzlich verschwanden und trampen, irgendwo in die Welt trampten.
C'était une époque à laquelle les jeunes commençaient à disparaître et à faire d'autostop pour partir au bout du monde.
Ja. Und so nach einiger Zeit, Rainer machte das auch, kam er wieder, da war er glaube ich 17 oder 18 und sagte so, jetzt will ich noch mal in die Schule gehen. Ich will und will Abitur machen.
Et Rainer l'a fait aussi, il est parti, il avait 16 ou 17 ans et quand il est revenu, il a dit bon, d'accord, je suis revenu et maintenant je veux retourner à l'école.
Und dann habe ich ihn gefragt, warum willst du denn jetzt Abitur machen? Dann hat er gesagt, er will studieren.
Et je lui ai demandé pourquoi il voulait passer son bac, il m'a dit je veux faire des études.
Und dann habe ich gefragt, was willst du denn bitte studieren? Und dann hat er gesagt, Theaterwissenschaft.
Et je lui ai demandé « qu'est-ce que tu veux faire comme étude ?» Et il m'a dit du théâtre, enfin des sciences de théâtre.
Und dann habe ich gesagt, warum denn Theaterwissenschaft? Und dann hat er gesagt, ich will Regisseur werden.
Et je lui ai demandé « pourquoi est-ce que tu veux étudier le théâtre ?» Il m'a dit « je veux devenir metteur en scène. »
Ja, nun hatte ich Germanistik studiert und kannte also diese Leute von der Theaterwissenschaft und sah, dass da keine Praktiker herkommen. sondern Theoretiker. Und dass der Rainer ein Praktiker werden würde, das war ganz klar.
Et moi, je connaissais un petit peu ce système d'études. Je savais que quand on suivait ces études de sciences du théâtre, on devenait des théoriciens et pas des praticiens. Et pour moi, c'était évident que Rainer était un praticien.
Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du Regisseur werden willst, willst du denn nicht lieber auf eine Schauspielschule gehen?
Alors je lui ai dit, tu ne préféreras pas aller dans une école d'acteur, de comédien, si tu veux devenir metteur en scène.
Und dann hat er gesagt, das hätte ich nie gedacht, dass du mir das erlauben würdest.
Et il a répondu, je n'aurais jamais pensé que tu puisses me le permettre.
Ah, voilà. Je dois dire qu'au début, quand on a commencé à faire les films, les rôles que j'ai eus étaient plutôt au contraire de ce que j'étais dans la vie. C'est-à-dire, j'étais dans la vie une intellectuelle qui allait à l'université, qui en avait marre de tout son intellectualisme, mais quand même, et que je voulais surtout pas me marier, je voulais surtout pas de dépendre de qui que ce soit, et j'aimais beaucoup ma liberté, aussi ma solitude. Et dans les films, j'étais toujours une femme qui s'accrochait à un homme à ce point qu'elle allait jusqu'à le tuer s'il ne voulait pas être tout à fait à elle. Mais j'étais charmée par le fait de faire un film, de me créer aussi ma propre stylisation qui était très influencée par le cinéma muet. Je me faisais un peu en poupée comme ça, avec tout très marqué. Et je sentais un charme dans ça. Et aussi, j'aimais bien me voir sur l'écran. Après, ça a changé tout à fait avec le... Ça a changé. Il y avait une rupture. Et Fibrice, c'était sûrement le rôle le plus intéressant que j'ai eu jusqu'à ce moment-là. Mais déjà là, je ne pouvais plus me supporter voir.
Vous êtes...
Je suis comme je suis.
Cette nuit, vous étiez différente.
Oui, cette nuit, j'étais la Maria Brown qui voulait coucher avec vous. Aujourd'hui, je suis la Maria Brown qui veut travailler pour vous.
Seigneur, peut-être que les gens pensent qu'il y a quelque chose entre nous, c'est ça, n'est-ce pas?
Mais ce que les gens pensent, ça m'est égal, mais ce que vous pensez n'est pas égal. Et je ne veux pas que vous pensiez que vous avez une aventure avec moi. Alors qu'en vérité, c'est moi qui ai une aventure avec vous.
Enfin, Maria.
Je veux savoir très précisément si je m'adresse à vous, bien si c'est à mon chef.
Bon. C'est un point de vue que je respecte.
Pourrons-nous parler de mon salaire, s'il vous plaît?
Vous pensiez à combien?
J'ai besoin de gagner beaucoup d'argent pendant quelques années.
Bien, nous en sommes tous là.
Mais moi, j'ai une bonne raison, monsieur Oswald.
Ah oui?
Je crois que vous avez pu vous rendre compte de la valeur de mon travail. Je ne demande que ce qu'il vaut, pas plus.
Il faut que je réfléchisse un peu à la valeur que vous représentez.
Après, j'ai arrêté de travailler avec lui pour 4 ans. Après, il y avait Maria Brown, que c'était un éclatement et que on était c'était tout à fait nouveau. On était l'un curieux de l'autre et qu'est-ce qu'il est devenu entre-temps. Et il y avait un courant nouveau et évidemment, on aime aussi beaucoup le succès. Après, comme ça a été un film qui a vraiment pénétré et qui nous a tous les deux ouvert beaucoup de portes. Et les rôles après, c'était plutôt... ils avaient tous un aspect tragique qui avait plus à voir avec moi-même, tel que je pourrais l'être, mais j'espère que je le... suis pas ou je le deviens pas. Mais en ce sens, c'était des rôles qui allaient beaucoup plus en profondeur et qui ont travaillé aussi, qui ont fait aussi que ça peut-être m'a évité d'aller certains allées dans la vie aussi. Je peux pas dire que il y avait aussi quelquefois que j'étais pas à la hauteur de ces films. C'est-à-dire que par exemple, dans un film comme La Troisième Génération, je me rappelle que j'ai dit à Rainer, s'il te plaît, ne me mets plus dans des films comme ça, ça m'a pas tellement plu de faire. J'ai pas compris en quoi ce film, maintenant je comprends, mais à l'époque ça me paraissait très superficiel. J'ai pas compris Maintenant, quelquefois, je n'étais pas tout à fait à la hauteur. Et quelquefois aussi, je voulais aller plus loin encore.
Oswald, Maria Braun, il faut que quelqu'un me fasse l'amour.
Maria Braun, qu'est-ce que c'est ? C'est une femme qui est veuve de guerre. Au départ, au moins, avant que son mari revienne, elle est comme beaucoup de femmes allemandes. À ce moment-là, il ne faut quand même pas oublier que les Allemands ont perdu 11 millions de gens dans cette guerre. Ça a quand même été énorme comme guerre pour eux. Ils ont payé aussi le prix fort. Et donc il y a quand même ce contexte-là qu'il ne faut pas oublier quand on commence de voir Maria Braun. À partir d'une société où il n'y a plus d'hommes, il est un peu normal que les femmes prennent la place des hommes et reconstruisent la société par leurs propres moyens. C'est ce que fait Maria Braun. Elle s'appelle Maria Braun parce qu'il y avait l'autre qui était Eva Braun, et que si l'une a perdu l'Allemagne, l'autre lui redonne de la vie. Enfin, c'est un peu comme la Vierge à ce moment-là. Avec les moyens du bord, mais la prostitution ne s'oppose pas du tout à cet aspect-là d'une femme qui redonne la vie aux choses, même si elle y perd sa propre vie, comme le suggère le film.
Que nos reporters vous demandent de bien vouloir excuser, car vraiment, l'exaltation est à son comble. Ici, la pagaille est indescriptible sur le stade. Nous allons pouvoir poursuivre ce reportage en direct, assuré par Peter.
Je crois que d'un côté, il y a des forces de vie qui reprennent, et de l'autre, simplement, elles construisent, sans le savoir, une prison qui sera la société moderne, qui sera la société de Fassbinder, et que ça se verrouille, mais c'est Mais ce n'est pas. Mais c'est la généalogie de la société de Fassbinder. C'est pas, le monde de Maria Braun n'est pas contemporain de Fassbinder. Il est contemporain de sa mère, il n'est pas contemporain de lui. C'est le monde de sa mère, pratiquement.
Votre fils est mort à 37 ans.
Le son est mit 37 gestorben.
Oui. Yeah.
Très jeune, hein?
Yeah.
Oui. Il était très transformé.
Yeah.
Ouais. Cette métamorphose physique où on le voit s'engloutir dans sa propre chair, comment vous avez observé ça?
Und wie ist das gekommen? Wie meinen Sie, dass er...
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich habe natürlich sehr viel darüber auch nachdenken müssen und ich bin heute der Überzeugung, dass jeder Mensch seine Spanne Zeit hat in diesem Leben.
J'ai beaucoup réfléchi à ça, évidemment, et j'en suis arrivée à la conviction que chaque homme est destiné à vivre un certain temps, un certain laps de temps dans cette vie.
Und Rainer wusste immer schon, er hat schon in ganz früh, schon in der Pubertät, hat er manchmal zu mir gesagt, ich sterbe sowieso vor dir.
Et déjà quand Rainer était très jeune, à l'âge de la puberté, il me disait, tu sais, je le sens, je serai mort avant toi.
Und ich denke, deshalb hatte er diese Arbeitswut und hat so viel gearbeitet, weil er in das kurze Leben, das er hatte, so viel wie möglich hineinpressen musste und wollte.
C'est pour ça qu'il avait une sorte de fanatisme dans son travail, parce qu'il savait très bien qu'il fallait qu'il le case dans une période assez courte de temps, parce que donc il savait qu'il allait mourir jeune.
Das war auf der einen Seite auch ein Luxus und eine Assurance de la vie, sozusagen.
C'était un luxe, pour ainsi dire.
Oui, une assurance qu'on a toujours du travail. Et, oui. Et pour ça, on n'a pas pensé aussi sur tout ce qu'il a fait avec ses sales drogues et tout. On n'a pas pensé que c'était un stop, une fin. Si tu vois quelqu'un presque tous les jours, et bon, s'il est 15 années avant, il était maigre et il a grossi, bien sûr, tu vois ça et tu vois son ventre grossir, ok, tu as pensé, il mange trop, il boit trop, je sais pas. Mais ça ne m'a pas énervé parce que même dans ce document de... C'était qui de Schiedor, je crois.
Oui.
Cet film où, avec son interview deux ou trois jours avant sa mort. Bon, j'ai vu quelques heures avant sa mort. Et, bon, il était vraiment dégueulasse à voir, mais... Quelquefois, on est comme ça. Quand, par exemple, quand tu bois comme un fou un jour, bien sûr, tu as l'air le jour prochain comme un dragon ou quelque chose comme ça. C'est pas une angoisse parce qu'on a le même jour ou un jour avant, on a avec une productrice allemande. Un coup de téléphone avec Jane Fonda qui die sollte die Rosa Luxemburg spielen.
Elle devait jouer Rosa Luxemburg.
Elle a dit oui, il a téléphoné avec elle. Elle était comme un enfant parce que c'est comme il a parlé avec Marlène ou quelque chose comme ça.
Oui.
Alors pourquoi penser que c'est fini demain ou après-demain? Oui, qu'il est mort, même s'il a regardé comme un... comme un porc ou quelque chose comme ça.
Oui.
Thank you.
On peut pas dire qu'il ait fait l'expérience de l'enfer avec l'homosexualité. En tout cas, pas si ça voulait dire que c'est parce qu'il est homosexuel qu'il a découvert l'enfer. Je crois que c'est plutôt le contraire. C'est parce qu'il avait la conscience que chaque individu est un enfer qu'il a vécu l'homosexualité d'une façon aussi lucide qu'il l'a fait. Il a deux films de lui traitent directement de l'homosexualité, Le droit du plus fort et Les larmes amères de Petra von Kant, l'un concernant les hommes et l'autre les femmes. Et dans ces deux films-là, il ne fait pas de cadeau aux homosexuels. Et je pense qu'il avait le sens de l'enfer, tout simplement, que les gens soient homosexuels ou non. Je pense que le type particulier de culture et de relation au monde qu'il avait lui a permis d'être plus lucide que d'autres sur le fait d'être homosexuel, mais pas le contraire.
Et la drogue, alors est-ce qu'elle est liée à cette espèce de surmenage de cette vie en groupe, en huis clos, qui est cette sorte de troupe de théâtre qu'il trimballe partout avec lui, qui est une troupe de films, et cette surproduction, cette surcréativité qu'il caractérise, est-ce que la drogue fait partie de cette overdose? Pourtant, il me semble qu'il a été finalement très seul, enfermé dans une chambre, à regarder constamment des films, les siens, ceux des autres, et que le seul moyen d'être avec autrui, c'était de les filmer.
Vous parlez de la fin de sa vie, lorsqu'il s'enfermait dans sa chambre. Oui, hein, c'était tout à fait la fin. Autrement, c'était quelqu'un...
Parce que c'est la femme, il avait 35-36 ans.
Oui, mais je veux dire, mais tout le reste... oui, mais 36 ans sur 37, c'est quand même la fin. Ce qui s'est passé avec Fassbinder, ce qui se passe avec les trois quarts des gens du spectacle, je veux dire, que la nécessité d'être sur la brèche 19h sur 24 dans une journée fait que lorsqu'on découvre la facilité qu'il y a d'être bien, d'être lucide, d'être productif en prenant de la cocaïne, eh bien on se met à en prendre, et puis après, le seul problème, et puis on en prend une fois ou l'autre si ça fait du bien, c'est ce que font la plupart des gens, ou bien alors on en prend beaucoup plus que ça. Et comme Fassbinder ne faisait jamais les choses à moitié, il a vu s'ouvrir là des possibilités qui ont très vite abattu son corps. Et vous savez, c'est un enchaînement, je veux dire, il vaudrait mieux en parler des spécialistes de la drogue, mais il prend de la cocaïne, il peut plus dormir, il prend des médicaments pour dormir, bon, puis voilà, c'est un enchaînement dont il a plus pu se sortir. Et puis personne autour de lui n'avait envie de l'en sortir, parce que personne ne mettait en doute le côté génial de tout ce qu'il pouvait faire. Bon.
Les autres étaient dépendants de lui, comme lui était dépendant de la drogue, on peut dire ça?
Non. Que les autres soient dépendants de lui, oui. Que lui soit dépendant de la drogue, oui. Mais qu'il y ait un parallèle à faire entre les deux, non. Oui. Les autres ont été dépendants de lui toujours, mais par contre, les autres étaient dépendants de lui comme lui était dépendant d'eux. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que s'il y a toujours eu des gens autour de lui, c'est parce qu'il ne pouvait pas se passer d'avoir des gens autour de lui. Il y a toujours eu ce besoin de faire une famille autour de lui, toujours besoin d'être l'espèce de père qu'il n'avait jamais eu comme ça. Mais il n'a pas eu une enfance malheureuse, hein. Il a eu une enfance absolument heureuse, je veux dire, même s'il a foutu le camp de chez lui, même si sa mère était une bonne bourgeoise avec laquelle il vivait bien, il faisait ce qu'il voulait, il allait au cinéma tout le temps. Fassbinder était un bon bourgeois allemand, un enfant un peu solitaire, bon, mais il n'a pas été misérable du tout. Hein. Et donc, par contre, il n'avait pas de père. Hein. Et ce père, il a voulu l'être, ou à moins qu'il ait voulu être la mère, je ne sais pas, il ne faut pas oublier que sa mère a toujours vécu près de ce groupe aussi. Hein. Elle a joué dans tous ses films, pratiquement. Elle a toujours été assez proche de lui, même si c'était d'une façon un peu ambiguë, mais c'est-à-dire qu'elle n'était pas vraiment intégrée au groupe, mais enfin, elle était toujours là. Et je pense qu'il a voulu, lui, être la mère ou le père de tout ce monde. Donc, si les autres étaient dépendants de lui, c'est parce que lui était dépendant des autres. C'est ça, je crois qu'il faut dire. La drogue, c'est un plus ou un moins. Ce qui est très curieux, par contre, ce qui est très curieux dans le cas de Fassbinder, c'est que le fait d'avoir pris de la drogue n'a en rien diminué la précision et la beauté de son inspiration.
Il avait l'art de s'entourer de gens qui étaient capables de suivre presque à la lettre son inspiration, de la devancer, de la comprendre.
Il avait un assistant, comme tout cinéaste, ouais. Sauf que Harry Bear a été un assistant presque systématique, et que donc il connaissait au quart de tour ce qu'il fallait, c'est ce qui permet... Le vrai rôle d'Harry Bear et des gens qui ont travaillé en continu avec Fassbinder, le plus important de tout, c'était à mon avis Per Raben, son musicien, bien plus et à tout point de vue que Harry Bear. Le vrai rôle de ces gens-là a été de permettre à l'œuvre de Fassbinder d'aller aussi vite, plus que de lui permettre de bien gérer son affaire. Ça, pour bien gérer, il avait besoin de personne.
bourgeois capitalist from top to toe. Ah, I've forgotten the yellow gloves. What else have I forgotten? Let me see from the back. Take a few steps. Now, her. Thank you.
Il y a beaucoup de morts dans les films de Fassbinder. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de meurtres, oui. Oui. Beaucoup de gens qui meurent sans être tués, beaucoup de gens qui meurent de leur propre pulsion interne. Ils ont des morts psychosomatiques, souvent à la fin de leur film, comme dans Tout l'autre s'appelle Ali, comme dans plein d'autres films, et, comme dans Le droit du plus fort. Les gens meurent soit d'overdose, soit de maladie, soit de ne plus pouvoir supporter le poids du monde. Il y a beaucoup de morts, oui. Mais alors, des fois, la vraie mort, il y a d'autres morts, c'est aussi les personnages qui deviennent. Des personnages qui deviennent raisonnables, qui prennent le sens, qui croient avoir découvert le sens de l'égalité entre les hommes. Alors ceux-ci, en général, ils sont perdus aussi.
Oui, il y a d'autres morts, il y a aussi les gens paralysés. Il y a beaucoup de paralysés chez Fassbinder. Ça n'est pas la mort de la destinée naturelle, c'est la mort qui vous casse en deux, et c'est la paralysie qui vous casse en deux aussi, que l'on soit victime ou que l'on soit révolté. La mort arrive aux révoltés, la paralysie arrive aux victimes.
Effibriste, d'après Theodor Fontane.
Oh Gott im Himmel, verzeih mir, was ich getan. Ich war ein Kind. Oder nein, ich war kein Kind mehr. Ich war alt genug, um zu wissen, was ich tat. Ich habe es auch gewusst. Ich will auch meine Schuld nicht kleiner machen. Aber das hier ist zu viel. Denn das hier mit dem Kind, das bist nicht du, Gott, der mich strafen will. Das ist er. Bloß er. Und ich habe immer geglaubt, er habe ein edles Herz. Und habe mich immer klein neben ihm gefühlt. Und jetzt weiß ich, dass er es ist. Er ist klein. Und weil er klein ist, ist er grausam. Alles, was klein ist, ist grausam. Das hat er dem Kind beigebracht. Ein Lehrmeister war er immer schon. Kampas hat ihn so genannt. Spöttisch zwar, aber er hat recht gehabt. Oh, gewiss doch, wenn ich darf. Du brauchst nicht mehr zu dürfen. Ich will euch nicht mehr. Ich hasse euch. Auch mein eigenes Kind. Was zu viel ist, ist zu viel. Ein Streber war er. Sonst nichts. Ehre, Ehre, Ehre. Und dann hat er den armen Kerl totgeschossen, den ich noch nicht einmal geliebt habe. Dummheit war alles. Und dann Blut. Und Mord. Und ich schuld. Jetzt schickt er mir das Kind, weil eine Ministerin keine Bitte abschlagen kann. Aber bevor er es schickt, richtet er es ab wie einen Papagei und bringt ihm die Phrase bei, wenn ich darf. Mich ekelt vor, was ich getan. Aber mehr noch ekelt mich vor eurer Tugend. Weg mit euch! Ich muss leben!
L'ombre des anges, conférence de presse Cannes, mai 1976, Daniel Schmidt et Rainer Werner Fassbinder.
pour moi, c'était plutôt comme une ronde, une balade. C'est une opéra de, un genre de, un sort de opéra de Katsu, c'était pour moi. Pour moi, je suis parti d'un texte qui m'a beaucoup impressionné et que je trouvais très excitant, qui a été écrit par Rainer et qu'on a mis ensemble en scénario. Et il y avait une chose qui me frappait beaucoup dans ce texte, c'était qu'il y avait parfois des paroles, des mots qui me semblaient comme s'ils étaient là pour une autre chose, comme s'il y avait des mots derrière. La même chose, c'est pour les acteurs ou pour les rôles dans le film, que comme si les rôles ne sont pas écrits sur des personnages seulement, mais au-delà des personnages. Alors j'ai essayé de trouver ce langage d'image comme une image qui représente au fond un autre, qui va au-delà. Pour moi, ce n'est pas psychologique, ce n'est pas réaliste ni sociologique. Ça pourrait être peut-être le même film ou la pièce pourrait être faite très réaliste ou très psychologique. Pour moi, vraiment, la limite de la psychologie, c'est peut-être que je me demande... Bon, tous les personnages sont des victimes. Et sur la question qui se posait pour moi, c'était qui sont les victimes les plus perdues. Et une des choses qui me semblait assez évidente, c'était de moins perdus étaient encore ceux qui avaient peur. C'est-à-dire, ça, dans le film, c'est le juif, le souteneur et la putain. Tandis qu'aux autres, on a même écrasé la peur.
Ich finde, dass es einer der viel zu selten Versuche ist, einen wirklich realistischen Film zu machen. Ich bin da anderer Ansicht als der Daniel vielleicht. Das heißt, da treffen wir uns vielleicht auch wieder. Ich meine, dass hier der Versuch gemacht worden ist, dass, und wirklich, und vielleicht noch extremer, als ich das in meinen Sachen gemacht habe, dass die Wirklichkeit erst im Kopf des Zuschauers passiert.
Le travail correspond tout à fait à mon opinion que j'ai sur le travail réaliste. Dans la... Je trouve que le réalisme doit se constituer dans la cervelle même du spectateur.
Ingrid Cavan et Rainer Werner Fassbinder. D'où vient cet argent? C'est l'argent du juif. L'argent du juif. Qu'est-ce qu'il a fait avec toi? Est-ce que sa queue est aussi grosse que la somme d'argent qu'il t'a donnée? Est-ce qu'il a bien fait l'amour? Sa queue était très grosse. Grande comment?
20 cm
Près de 20 cm peut-être. Et très grosse. Grosse comme une bouteille de bière.
C'est un vieux truc et très simple de montrer des choses avec le contraire, au fond. Et en plus, il y a une chose qui me semble très très importante. Comme il y a plusieurs histoires, il y a l'histoire de la putain, il y a l'histoire entre le juif et le fasciste, il y a l'histoire des parents, il y a l'histoire du souteneur, il y a la ville qui est le cinquième personnage, mais à un certain moment, pour moi, c'est comme des personnages qui ont du carte, qui jouent, et si vous regardez plus près la carte, demain ou dans 2 ans, moi je peux jouer le fasciste et toi tu vas jouer le souteneur et à l'envers.
La pièce, l'ordure, la ville, la mort, tirée de Gerhard Zwerens, avait été interdite en Allemagne à Francfort. Dans l'ombre des anges, filmé en 1976, chant de Müller, le travelot fasciste. Geht's mal drüber und mal drunter, wenn's der Schiller raut.
Mensch nicht unter die Verzerrung gebracht, davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht.
Im Übrigen ist das die einzig akzeptable Vaterfigur des deutschen Kinos. Der Vater.
Que c'est le seul personnage de père acceptable du cinéma allemand.
Ce qui est plus troublant, c'est que les films de Fassbinder se déroulent en Allemagne et que l'histoire de l'Allemagne est toujours présente derrière. Ça, vous ne pouvez pas l'éluder. Parce qu'il a fait des films sur l'Allemagne. Il a fait notamment un film qui s'appelle Lili Marlène, et où les victimes du nazisme, des patriciens juifs, sont à leur tour bourreaux d'une jeune plébéienne allemande, qui est Lili Marlène. Donc on a dans l'histoire même la réinscription du thème bourreau-victime immédiatement, et là elle devient très, très difficile à comprendre. Elle est en tout cas une projection directe de l'imaginaire allemand. La plébéienne allemande manipulée par les patriciens juifs, et tout d'un coup la culpabilité change de sens.
Ce n'est pas parce qu'on sort de Bergen-Belsen qu'on devient bourreau. Ce n'est pas parce qu'on est un patricien juif qu'on exploite une pauvre chanteuse plébéienne allemande. Je crois que sur les thèmes du le bourreau et la victime, ils ont les rapports sadomasochistes, c'est quelque chose qui, chez Fassbinder, est identifié au fonctionnement de la société, mais de la société allemande. C'est quelque chose qui existe dans l'Allemagne d'aujourd'hui, pas du temps du Troisième Reich. Et c'est une constante. C'est une constante qui lui fait se poser comme question s'il n'y a pas d'autres rapports sociaux que cela, c'est-à-dire de prendre ce type de rapport social comme fondamental dans le fonctionnement et la reproduction de la société, que ce soit au niveau économique ou au niveau affectif. Ça fonctionne aussi bien dans les rapports qu'un patron peut avoir vis-à-vis de ses employés, que dans les rapports qu'un homosexuel bourgeois peut avoir avec un homosexuel prolétaire. C'est l'histoire du droit du plus fort. Ceci, c'est une composante de la société. On retrouve cette même hiérarchie de rapports d'exploitation économiques qui sont faits aussi sur des rapports d'exploitation et de chantage affectif qui sont extrêmement durs, où l'un se met en position de bourreau par rapport à un autre qui se met en position de victime et accepte, parce que c'est quand même son désir, ou son désir passe par là et qu'il accepte que son désir passe par là. Le cas de Lili Marlène, c'est quand même différent. Parce que Lili Marlène n'est pas identifiée, n'est pas... Le personnage d'Anna Chigoula n'est pas identifié à l'Allemagne. Il est identifié à une Allemagne en guerre, dont l'ascension même de ce personnage signifie une conflagration mondiale. C'est-à-dire que plus le film avance, plus le personnage est asexué, et plus il est quand même lié à l'idée que son ascension correspond à une destruction de l'humanité.
the barracks, by the corner light. I always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I wait for you the whole night through. For you, Lily, my lady. For you, Lily, my lady. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I always keep you in my heart. With me, Lily, my lady. With me, Lily.
Anna Chigoula, Lily Marlène, c'est-à-dire Lynn Anderson, sont momifiées quasiment, statufiées, momifiées par les nazis qui la mettent en scène. Elle est embaumée dans ses vêtements et c'est quasiment un cadavre qui chante à la fin du film.
Le besoin de Fassbinder d'associer un personnage qui va être une célébrité du Troisième Reich avec des familles de résistants juifs, c'est simplement une idée permanente chez lui de toujours rappeler aux Allemands ce fond d'histoire qu'ils ont voulu évacuer après-guerre. De ce point de vue-là, aussi bien un film comme Le secret de Véronica Voss que L'année des 13 lunes, que L'ombre des anges, travaille la même question de ce refoulement d'une... les Allemands. La démocratie en Allemagne n'est pas quelque chose qui est venu des Allemands, c'est quelque chose qui a été imposé par les Alliés parce qu'ils ont perdu la guerre. Donc c'est pas quelque chose qui a été résolu ou accepté par eux, ça n'a été accepté que sous la forme de la contrainte. Par contre, tout ce qui était constitutif de l'Allemagne nazie, à savoir l'antisémitisme et le fascisme, donc les rapports de maître à esclave, n'a jamais été liquidé et est toujours là dans l'inconscient.
I'll call the hotel.
Look, is Hermann your first name or your surname?
Dites-moi, est-ce que Hermann c'est votre nom ou votre prénom?
My father was a German speaking Russian from Ravel. My mother was a Rothschild.
Ma mère était une Rothschild.
On their wedding day, he gave her rubies. Her dowry was her own weight in gold coins.
Sa dot était son propre poids en pièces d'or.
Proved them to be chocolate.
L'enquête a prouvé que c'était du chocolat.
Mother of diabetes.
Mon père en est mort le cœur brisé.
I inherited the balance of the chalky works, and I have never looked back. My wife is a Finkelberg.
Ma femme est une Finkelberg.
Was her weight.
Et sa dot était son propre poids.
Most of my information comes from forged documents, as is my fate. When the war started, I procured some papers which stated that I was a black shirt.
Pendant la guerre, j'ai procuré de faux documents prouvant que j'étais une chemise noire combattant les rouges dans l'armée blanche. Pendant la révolution, je suis parti. Pour combattre les chemises brunes dans l'armée rouge.
All I really am is just a yellow belly.
in a brown hat. But I'm holding on for myself.
Mr. Herman? I have decided.
Despair.
Keep your fucking shackles.
1977.
Si vous prenez un cinéaste comme Wenders, il parle d'un... Il a quand même beaucoup parlé ou toujours situé son cinéma entre les deux Allemagnes, à la frontière du mur et autour de Berlin, qui est une espèce d'île perdue entre l'Est et l'Ouest, et qui ayant été rasée et portant encore ses ruines à la différence des autres villes d'Allemagne, est une ville qui a fait table rase de son passé. Le cinéma de Wenders est un cinéma résolument au présent, sans passé, ni même avenir. C'est un cinéma pratiquement d'utopie. Il n'y a pas de trace qui permettrait de reconstruire une histoire. Fassbinder, c'est un cinéaste qui s'est quand même toujours situé par rapport à l'Allemagne, qui n'a jamais voulu en partir. Wenders est parti aux États-Unis, Schroeter est parti en Italie, même si Berberg a voulu un moment aller aux États-Unis, même quand Fassbinder, à un moment d'isolement en Allemagne, a songé à partir, il est toujours resté en Allemagne parce que c'était la seule réalité qu'il connaissait et que donc il estimait qu'il pouvait filmer. Maintenant, c'est un cinéaste qui s'est attaché plus que tout autre en faisant des films pour un public allemand, essentiellement destiné aux Allemands, à montrer aux Allemands des images qu'ils n'accepteraient pas. C'est pour ça que chaque fois qu'on l'a accusé d'antisémitisme, que ce soit sur des films comme L'ombre des anges ou comme L'année des 13 lunes, on se trompe parce que ce qui renvoie à ce moment-là, c'est aux Allemands l'image de leur antisémitisme. C'est très très différent. C'est-à-dire des images qu'ils ne peuvent pas accepter. Si vous montrez un pauvre juif malheureux persécuté, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il est pauvre, malheureux, que c'est un scandale qu'il soit persécuté. Si vous montrez un juif puissant, qui a été l'objet même de la haine des Allemands, et que vous leur montrez aujourd'hui, c'est évidemment à leur passé que vous en appelez. C'est pas au personnage, c'est pas le personnage qui est chargé négativement à ce moment-là. C'est le regard des spectateurs qui est questionné. Très très différent. Il a mis en scène non pas des juifs haïssables dans L'ombre des anges ou dans L'année des 13 lunes, encore moins dans Lily Marlène. Il a surtout mis en scène la haine des Allemands pour les Juifs.
L'Allemagne en automne, Deutschland im Herbst, 1978. Rainer Werner Fassbinder chez lui avec Armin Mayer, son amant, des amis, sa mère, Liselotte Eder. Au moment des lois d'exception en Allemagne contre le terrorisme après l'attentat contre Schleyer.
Warum du die Ordnung, die freiheitliche Ordnung, an die du glaubst, die positiv findest, warum du die Sorge delegieren möchtest?
Du, ich habe sie delegiert, als ich gewählt habe. Und wir haben ja Parteien da und ich gehe eigentlich immer noch davon aus, dass in diesen Parteien, von denen ich eine gewählt habe, die Vernunft sich breit macht. Davon gehe ich eigentlich aus.
Die Vernunft muss von oben her kommen. Also zumindest dein Demokratieverständnis müsste doch eine sein, dass du gerade wenn du das Dritte Reich so erlebt hast, wie du es immerhin hast, dann müsstest du doch sagen, okay, die Basis, also der Einzelne.
Ich will hier sagen, dass ich
Est-ce qu'on peut dire, comme Cohn-Bendit l'a dit et comme Cohn-Bendit l'a
accepter que la vision de Fassbinder était une vision obscène de d'une Allemagne obscène.
Oui, on peut le dire. On peut le dire, sauf que c'est pas propre à Fassbinder. C'est aussi, on retrouve ça aussi chez Cyberberg. On pourrait le dire aussi de Cyberberg. C'est pas suffisant. Non, je crois que l'obscénité, elle va avec. Elle va à la fois avec le rejet, la société allemande, et aussi avec le refoulement sur lequel cette société est constituée. Dans les films de Fassbinder, les gens n'arrêtent pas de se laver les dents, de cracher, d'aller pisser, d'aller vomir dans les chiottes, ou des tas de choses comme ça, ou se dire qu'il pue de la bouche, ou se raser les aisselles pour des femmes, etc. C'est sans parler des scènes proprement homosexuelles.
Et Fassbinder lui-même, dans L'Allemagne en automne, vomit et se branle en public.
Ça, si vous voulez, c'est le même. Ça procède du même esprit que ce qui peut avoir trait au Troisième Reich ou à l'antisémitisme. Tout peut se communiquer en principe dans la culture à partir du moment où cette belle idée et où ça ne touche jamais au corps et donc à la sexualité. C'est vrai que les films de Fassbinder, de ce point de vue-là, font une violence de cette conception castrée de la culture. En ramenant toujours la dimension du corps, y compris dans son aspect scatologique, au premier plan. Ce serait presque une tautologie de dire d'une œuvre artistique qu'elle est obscène, parce que elle le sera forcément vis-à-vis de son public. Elle porte en elle les symptômes de la maladie. Maladie qui n'est pas celle de l'œuvre, mais qui est celle de la société.
...1945-1982, Fassbinder, théâtre de cruauté. Une émission de Pascal Werner, avec Harry Baer, Anna Chigoula, enregistrée à l'Institut Goethe, Jacques Grant, auteur d'un Fassbinder à paraître aux éditions du Chêne, Yann Lardot, auteur d'un Fassbinder à paraître aux éditions des Cahiers du cinéma, Liselotte Eder, dite Lilo Pempeit dans les films de son fils, et la voix de Rainer Werner Fassbinder. Musique de Père Rabin, Archivina, Yves Billy, et tous nos remerciements à Georges Lechner, directeur de l'Institut Goethe, Brigitte Kaiser et Isabelle Farsa pour leur coopération. Mixage Claude Niort, réalisation Jacques Taroni.
Cette émission a été diffusée le 14 mars 1989 sur France Culture.